This is open, it's a decision for you to make. Do you think we should have a discussion right away of this magnificent lecture, or should we go to the paper of Dr. Rosolato? We're going to have a discussion, I think. I see some people want to ask questions. So, questions.
Here, I've noticed this. Monsieur, c'est la coutume pour répondre, pour poser des questions, pour faire des discours, j'ai vu. Alors, je veux dire d'abord, vous avez dit que ça n'a rien à faire avec Freud. Rien du tout. Freud était en effet un homme très simple, mais d'un pouvoir pour inventer les solutions aux problèmes humains très diverses. Il cherchait, par exemple, pour savoir comment expliquer les difficultés, les gènes des humains, il utilisait les mythes. Et pas du tout comme les symboles pour décrire les paradoxes de Russell, etc. Par exemple, le mythe de Narcisse, c'était qu'il a vu qu'il y a des gens qui se regardent dans le miroir et s'aiment. Et c'est tout simple. Et pour commencer avec la thérapie, il a commencé comme ça, et d'autres mythes que vous connaissez mieux que moi. Mais Freud, il ne cherchait pas du tout à flotter sur la surface des mots et faire des fils des mots. Et c'est comme une araignée que vous faites. C'est-à-dire, vous faites des fils très délicates. Et il n'y a pas du tout la réalité humaine dedans.
Ah oui.
Pas du tout. Vous croyez? Alors vous avez par exemple parlé juste ce moment-ci de la joie, la jouissance. Jouir, il y a une signification en français, c'est-à-dire l'orgasme.
Oui.
Et c'est ça qui est le plus important, n'est-ce pas? Et pourquoi pas dire
pas
ça?
Contre.
Et oui, je sais. Mais il faut dire ça. Il faut être plus simple. Je me demande pourquoi j'étais ici pendant des jours et je n'entends que des discours tout à fait abstraits. Et pourquoi est-ce que c'est? Je ne comprends pas du tout. Même quand vous traduisez votre discours en anglais, je ne comprends pas. L'anglais, c'est ma langue. Mais je ne comprends pas du tout. C'est-à-dire, cette abstraction, d'où vient ça en français?
For English. I have absolutely not given the last term in this decision.
This gentleman said
no.
Freud was a simple man using simple words.
No, no, mais qu'il finisse, il n'a pas fini.
Il n'a rien de plus à dire. Il n'a rien de plus à dire.
Il faut le laisser.
Continuez.
Oh, vous savez. Il y a tant de choses. Quand je vous écoutais, j'avais des questions dans ma tête. La chose la plus importante, je crois, c'est pas du tout la question de la psychanalyse, parce que vous savez, la plupart des psychanalystes du monde sont à New York. Je sais pas, 19% sont à New York actuellement. Alors, la psychanalyse, sa vie à New York, c'est pas en France, c'est pas à Vienne plus, n'est-ce pas? Alors, la psychanalyse, ce qu'il y a de la valeur, c'est une théorie de la dynamisme psychologique. Ce qui est important maintenant, ça vient de Wilhelm Reich, etc., tout ce qui est arrivé après Freud, mais il n'est pas nécessaire de faire toute cette métaphysique. C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours faire des métaphysiques, des choses dynamiques? Moi, j'ai des besoins, je veux manger, qu'est-ce que c'est sexual intercourse en français, je sais pas. Etc. Tout ça, n'est-ce pas? Tout ça. Pour toucher, etc. Et vous-même, vous avez dit, par exemple, et peut-être que je n'ai pas compris, vous avez dit, et c'était les diagrammes, c'est amusant, ça. Très amusant, mais ça flotte. Ça ne descend pas au niveau naturel, normal de notre action. Anormal aussi, n'est-ce pas? Mais quand vous avez dit pour faire le sujet, pour créer le sujet, il y a deux autres, peut-être, disons, l'homme et la femme, qui doivent devenir un seul pour faire un nouveau seul, un nouveau singulier. Mais ce n'est pas vrai, parce que l'homme et la femme, quand ils sont ensemble, il arrive la plupart du temps qu'ils sont très loin, lui, d'elle, n'est-ce pas? Je ne peux pas... Et c'était
très... ce que je pense.
Oui, oui, oui. J'étais... Et ces choses-là, il faut attacher, vous attacher à ça, et aux choses réelles qui arrivent. Pas à tout
c'est
ça métaphysique.
C'est précisément ce que j'ai dit, et monsieur.
Comment?
C'est précisément ce que j'ai dit. Oui. Je vous ai épargné les détails, mais c'est précisément ce que j'ai dit. Quand un homme et une femme sont ensemble, ils font en effet, peuvent faire en effet beaucoup de choses, parmi lesquelles il y a... et le fait de penser séparément, l'un à ses ennuis domestiques et l'autre à ses impasses sociaux, et que ce n'est peut-être pas en effet le lieu le plus sûr pour établir cette unité du deux, mais c'est très répandu dans la psychanalyse à New York, par contre, de penser que c'est, là le but de la psychanalyse.
Quoi? C'est ça, oui. Mais alors, si je peux poser une question, alors vraiment poser une question, c'est-à-dire revenir à l'abstraction du discours. Est-ce que vous pouvez, comme psychanalyste, expliquer l'extrême abstraction de tous les discours que nous avons entendus ici? Parce que vous savez, en Amérique, nous avons, par exemple, des rhétoriciens très, très calés. Par exemple, Kenneth Burke. Je n'ai pas entendu son nom. C'est un très grand critique.
Je n'ai pas pu parler nous, de tout
etc., etc. Oui, oui. Mais ça me donne l'impression que rien n'est arrivé dans la critique depuis 50 ans, n'est-ce pas? Alors, pourquoi pas chercher des exemples concrète. Pas les diagrammes, c'est trop ça.
Ok. It's always Freud, man using simple.
Voulez pas?
Si.
Trying to help people using simple myths like the myth of Narcissus. You're like a spider. You're floating on the surface of words. Why don't you use simple words to say jouissance, like orgasm? Everything here is abstract. I don't understand, even though English is my language. So many things have taken place here. I had questions in my head. Most important psychoanalysts are not in Paris and in Vienna, but they are in New York. What is important now is dynamism in the concrete, not this metaphysics. I want to eat. I want... Maybe I didn't understand your diagrams. Diagrams are floating. They are amusing, but they float, and they do not descend to normal and abnormal levels of action. Subject, you see two that must become one. It should be a new singular. Why don't you attach yourself to the concrete? Now I go back to abstraction. Can you, as a psychoanalyst, explain the extreme abstractions? We have great abstract people too, like Kenneth Burke. I didn't hear about them, and I think you should say more about all this.
Moi, je veux répondre. I will try to take what in French we call. Alors, je vais en prendre de la graine. Voilà. Après. C'est tout. Bon. Qu'est-ce qui peut encore intervenir?
Traduisez comment ça peut se dire en anglais. Je vais en prendre de la langue.
en prendre la graine, I'm going to resort to the same sort of thing. Mm-hmm.
Bien. Qui veut avoir la gentillesse de m'envoyer la réplique? Dans cette chose que... Oui, question.
May I ask you what evidence you have that this fundamental arithmetic and this topology is not in itself a myth or merely at best analogy to an explanation or for an explanation of the life of the mind?
C'est curieux, oui. Analogie à quoi? Analogie to what?
Well, that's a device for you asking me
about. Analogie to what? Est-ce design?
Quoi?
Designates. Something which can be written exactly as this S. And I have told that the S in the bar, which designates the subject, is the instrument, the data, to symbolize a loss that you are yourself as a subject and myself also. Other words, this gap between one thing which is that which has marked me in the past and this other thing which is my actual discourse that I tried to install, to put in the place where you are, you as not another subject, but these people that are able to answer to me. Where is the analogon here? Or this loss exists or it doesn't exist. If it exists, it is only possible to designate a loss by a system of symbols. In any case, this loss does not exist even before. This symbolization is not here to indicate his place. It is not an analogy. When I frequently dares to tell my torus when I inscribe my double turn on the torus is not an analogon. It is really, in some part of the reality, this sort of torus. If you have made an analysis of a neurotic, and his manner to turn in always in a circle without only perceive that at each time he makes just a turn that it cannot count. You were convinced that this torus exists really, and it is exactly the structure of the neurotic. It is not an analogon. It is not even an abstraction. because an abstraction is some sort of diminution of the reality. And I think that it is the reality itself.
I will try English, so it's not after his mistake of speaking French, before he has learned his French and after he has forgotten his English. I would like to come to Monsieur Lacan's defense. It seems to me that he is doing something very interesting, and I must say that reading his papers before this conference was the first time... We have a traduction for Monsieur Lacan? Well, was the first time I had encountered his work. And it seems to me that he has returned here, Mr. Fletcher, and also Mr. Wolff, to the project for a scientific psychology. Le projet pour une psychologie scientifique, which was the earliest of Freud's psychological writings, and very abstract and very like what you have written here, although you are doing it with algebra and he is doing it with neurons. And the influence of this document is all through the interpretation of dreams and his letters to Fleece and all the early writings, although often very unstated. I'm sorry. What? Can somebody help out?
Il vous dit en fin de compte qu'il vient de votre défense, puisqu'il a vu que l'autre monsieur qui a parlé, je ne peux pas le traduire sans interpréter, je veux dire, puisque j'ai une telle idée personnelle là-dessus. Mais il dit, en fin de compte, que ce que vous faites est très intéressant, et la traduction qu'il a lue avant d'arriver ici, c'est la première fois que qu'il connaissait vos écrits, que c'est une expérience très intéressante, très importante, il semble. Et il dit, enfin, que vous employez maintenant une structure, comme on peut dire, algébrique, et Freud lui-même, dès ses premiers écrits, comme le projet pour une psychologie scientifique, a fait, en fin de compte, la même chose, mais sans avec les mêmes symboles, puisque dans le projet, en fin de compte, il employait des neurones, on peut dire, c'est-à-dire une autre sorte de métaphore, en fin de compte. Si je puis ajouter quelque chose, puisque c'est tellement important, vous avez parlé au commencement de votre discours de la méconnaissance, et nous avons commencé par une méconnaissance tellement profonde que moi, je ne vois pas comment on va en sortir. Mais vous savez bien que ce que vous avez fait, c'est de commencer par le sommet. Et ça va être très, très difficile pour les gens ici, de savoir ce que... de savoir les débuts de toute cette pensée très riche et très profonde. Et à mon sens, et je le dis comme votre malheureux traducteur, je le dis comme l'homme qui a dit... That your English was bloody awful. Je le dis qu'à mon sens, vous êtes absolument fidèle à Freud et il faut absolument vous lire avant d'en parler un tas de bêtises qui puissent bien arriver ce soir. Et après vous avoir lu, je vous dis, messieurs, lire Freud.
Alors. Je vous en prie.
Je vous demandais seulement une petite chose, s'il s'agit de ce dessin. Vous avez dit que c'est une figure qui n'a pas son nom, si je comprends.
Je vais donner un nom.
Oui, mais qui n'a pas existé avant. Cette figure que vous avez dessinée, ce sont les rubans de Möbius, très connus.
Je le sais.
Oui, mais c'est à cause de ça que je me demande. Est-ce que ça, c'est un cas fortuit? Puisque dans le ruban de Möbius, nous avons, comme nous savons très très bien, nous avons une seule surface. Oui. C'est-à-dire qu'on peut passer d'une surface à l'autre, c'est un vrai objet. Oui. Est-ce que c'est particulier ou c'est fortuit ou c'est exprès?
C'est exprès.
dans la bande de Möbius, pour revenir au même point, justement, il faut que nous fassions deux tours. C'est pour ça que c'est une bande de Möbius. Maintenant, en soi, ce n'est pas une bande de Möbius. C'est un trait. Ça ne constitue une bande de Möbius que si vous dessinez ce trait sur cette surface que j'ai appelée tout à l'heure un cross-cap, qu'on appelle aussi un plan projectif, et qui est aussi, vous le savez, une bande de Möbius. Bon, alors l'intérêt justement de la dessiner sur un cross-cap, c'est-à-dire d'y découper la bande de Möbius, parce que sur un tore, vous ne découpez pas la moindre bande de Möbius. Mais quand vous découpez la bande de Möbius sur un cross-cap, il y a justement un petit résidu. C'est à ça que ça me sert aussi, parce que quand vous ne liez pas les bords ici, mais quand vous prenez la surface qui reste là, vous avez quelque chose qui est en somme simplement un disque, mais un disque qui en quelque sorte se mord sur lui-même, n'est-ce pas? Vous le voyez d'ailleurs, là c'est visible, hein? Je n'ai qu'à remplir les choses pour vous le faire voir. Et alors ça, ce petit objet en somme, qui peut se détacher, n'est-ce pas? Tout le monde peut faire ça, moi je vous le fais tout de suite avec un bout de papier, n'est-ce pas? Alors ça symbolise très bien ce petit objet, petit A, qui est en quelque sorte la monture du sujet. Cet horrible objet, petit A, que nous avons tous quelque part pour nous gêner, là, quelque part, mauvais objet interne, comme on l'appelle dans la psychanalyse.
Alors le symbolisme, oui. Alors le symbolisme de ce dessin est, on peut dire, dans c'est trois dimensions, oui. C'est-à-dire comme le symbole d'une chose concrète.
Non,
oui.
Ce n'est pas trois dimensions, justement. Ce sont des surfaces. Ce n'est pas trois dimensions, c'est l'intérêt de la chose. C'est l'intérêt de la chose, c'est de manipuler des surfaces. Je crois que tout ce qui est de l'ordre du sujet, enfin, n'est-ce pas, comme relevant de l'écriture, exige d'être traité avec quelque chose qui est simplement une surface. Il n'y a aucun besoin de parler de troisième dimension pour faire tenir debout vos cross-caps, bandes de Möbius et autres trucs, n'est-ce pas? Vous savez très bien que ça se traite comme ça, on fait un petit mouchoir de poche et des bords vectorisés. Ça suffit très bien et ça suffit à les symboliser. Et la coupure aussi, naturellement, qui les traverse.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Are there other questions?
Well, lui.
What is the relationship between your thought about nothingness and the work of Husserl and Sartre on the same subject?
Well, it's clear. Is the question clear? It's a simple question.
Écoutez,
oui.
Vous permettez de vous répondre en français?
Non. Oui, I won't understand,
non,
but it's perfect.
Non, mais je vais essayer. Je dois vous avouer que j'étais tout à fait décidé quand je suis arrivé à cause des instances à parler en français. Puis j'ai pas pu faire autrement que de parler en anglais. Je vous demande pardon. Bon, alors maintenant, écoutez. The nothingness, hein? It is the word that you have used. I think really that I am able to call about, to tell about nothingness. Owes absolutely nothing, nor to Husserl, nor to Sartre. Really, I don't believe that I have talked about nothingness. The fading, the glissement, the sliding, the difficult to seize,
the never here nor here, but not at the same time. It is here when I search here, it is there when I am here, is absolutely another thing. And really, this year I have announced as a program of my seminary this thing that I have entitled La Logique du Fantasme. The most of my effort, I believe, will be to define the different sort of lack, of loss, of void, which are of an absolutely different nature. An absence, for instance, in this map, because just now I have told that it is absolutely necessary to add up kings with cabbage, but it is also absolutely necessary to add up cabbage, king, and for instance, the absence of the queen. It is necessary to make an addition with this sort of element. But to found the absence of the queen, it is extremely necessary that the subject, which is absolutely another sort of absence, something like the root of minus one, the sort of little I that mathematics have taught us to employ will be defined. I think that really some so vagueness as the mere nothing is absolutely not handable in this context. But naturally, I am with a great I am late with all that I must develop before I will myself really disappear. But it is also difficult enough to make the thing practicable enough to advance. It is necessary to proceed stage by stage, floor by floor, and now I will try precisely this different sort of lack, precisely.
Mm-hmm. Professor Pouli.
Pour l'unité de Troyes. Est-ce que ça passe le symbole de celui-ci pour le symbole de celui-ci? C'est-à-dire pour l'unité de Troyes, où vous avez l'unité de D pour un nouveau élément ici. Est-ce que ça se peut multiplier jusqu'au 4 et de Troyes à l'infini? Oui. C'est-à-dire ce changement de ruban de Möbius.
Oui, bien sûr. C'est à ça que je faisais allusion tout à l'heure quand je vous ai parlé.
Ça sera très, très curieux.
De là en plus.
N'est-ce pas? Vous voyez là ce que vous avez, c'est 1, 2, en effet 3.
Oui, oui.
Mais celui-ci constitue un quatrième complètement inaperçu.
C'est oui, ça, je vois.
C'est le 1 en plus sur le tore, n'est-ce pas? Hein? Bon, ça ne peut pas marcher de la même façon sur le cross-cap, mais ça nous entraînerait justement de voir ce que ça fournit comme support à la pratique, n'est-ce pas?
Il y a encore une chose assez curieuse qui est probablement assez fortuite, tout à fait fortuite, que si nous prenons ça comme une forme plastique ou comme un symbole, nous retrouverons tous les dessins dans la peinture post-surréaliste. Oui. Spécialement, surtout dans la peinture de Yves Tanguy et des autres.
Oui. Oui.
Est-ce que c'est pour vous un cas fortuit ou il y a quelque chose qui compète? Il y a quelque chose là-dedans, c'est-à-dire il y a une liaison dans cette peinture surréaliste qui veut trouver des symboles aussi pour subconscient, ou c'est tout à fait fortuit?
En tout cas, une grande liaison personnelle avec les surréalistes.
Oh, ça, je comprends. Ce symbole a été pour la première fois donné comme un signe plastique dans la peinture surréaliste. Ça, j'en suis sûr.
Je voudrais vous poser la question suivante. Cette perte de l'objet qui fait le sujet, qui introduit le sujet, disiez-vous, n'a aucun rapport avec le néant dans la conception sartrienne ou sartrienne. Est-ce que cela aurait une certaine analogie avec la situation du dormeur éveillé que nous découvrons au début de l'œuvre de Proust, par exemple? Vous rappelez, le rêveur sort du sommeil et il se découvre dans le sentiment d'une perte, dans le sentiment d'une absence, qui est d'ailleurs absence de lui-même. Est-ce qu'il y aurait là quelque analogie ou bien est-elle complètement fausse?
Je crois que Proust a maintes fois approché certaines expériences de l'inconscient quand elles sont affleurantes, n'est-ce pas, et que de temps en temps on trouve chez lui quelque chose comme ça, un passage qu'on peut découper, mais très nettement, enfin qui va d'une page, une page et demie, où il sort quelque chose dont on ne peut pas ne pas sentir qui passe je ne sais quel avertissement. Enfin, n'est-ce pas? Pas besoin seulement de chercher ces passages qui sont justement tous ceux de la limite entre... Enfin, je dirais même pas de la limite, enfin, de la fonction du réveil, enfin, de ce que c'est que le réveil. Car, bien entendu, j'ai fait aujourd'hui une conférence où on parle de structure parce que la structure est là et parce que je ne vois pas pourquoi je ne serais pas resté justement étroitement, n'est-ce pas, sur ce tranchant du rasoir qui était uniquement d'en parler sous l'angle de la structure. Mais il y a la face enfin, expérimentée, vécue de ces choses que, sans laquelle tout ça n'aurait pour moi... Je dois dire, enfin, aucune portée, pas plus que pour ce monsieur qui l'entendait tout à l'heure pour la première fois et qui ne me semble pas non plus avoir d'autre part une très grande expérience des choses analytiques, n'est-ce pas? Je crois qu'en effet, ce que vous dites, c'est juste que Proust ait poussé la chose jusqu'à en avoir la théorie, le dernier mot, sûrement pas, car on voit toujours à quel moment il lâche la corde, n'est-ce pas? Et à quel moment il revient à ce qu'il a à faire, c'est-à-dire avant tout à une œuvre, enfin, à sa littérature, n'est-ce pas? Mais, je ne sais pas, prenez le cas de Mademoiselle Vinteuil, par exemple, et lisez cette chose inouïe, enfin, de ce qu'il aperçoit par la fenêtre entre les deux femmes, qu'il y ait là le portrait du père. C'est vraiment une chose absolument fabuleuse que seul un psychanalyste peut comprendre, n'est-ce pas? Il ne le rate pas, ça. Alors que je crois que n'importe qui d'autre dans la littérature n'a jamais sorti une chose pareille. C'est vrai que dans Proust, il faudrait savoir pour quelle raison, peut-être justement à cause du projet même de son œuvre, enfin, de cette entreprise fabuleuse, de cette toison d'or du temps retrouvé, c'est peut-être ça qui l'a guidé et l'a porté à certains moments au-delà des limites de ce qui est vraiment accessible. Peut-être à sa conscience même, enfin, il semble que ce soit là l'œuvre, la matière même, justement, du langage qu'il porte.
Dr. Koch? Well, I'm going to try. The question was... Do you feel that the loss of the object that introduces the subject has any relationship with the awake sleeper at the discovered at the beginning of the work of Proust? And Dr. Lacan agrees that it is true, and he says that there are many intimations of psychoanalysis in Proust, and that it's easy to see the place where Proust abandons and goes back to, never reaches the final formulation of it, and goes back to his business, which is literature. But he especially quoted the passage in which, with the daughter of Vinteuil, in which the portrait of the father is present between the two women, and he says that this, to a psychoanalyst, is so striking that it is certainly beyond the normal intuition that you find in literature before Proust. Do you have a question, Dr. Kranjani?
Do I have a question?
Yes.
I have nothing but questions.
Oh. All right, so go ahead. Dr. Koch.
I hope that you have something to tell, because you are not the last cause, but the immediate cause why I have told in English. I asked you, do you understand a little French? You told me absolutely nothing precisely. And in this case, I was decided.
Well, in the spirit of hostmanship, I can then only take full responsibility. I wish I could ask more concrete questions, Monsieur Lacan. I know a little bit about psychoanalysis. I know a little bit about Russell's theory of types. I know a little bit about Frege's generation of a series of natural numbers. But I find a pattern constantly eluding me in your presentation, and I can only attribute it to the unfortunate fact for which I am presumably responsible, namely that you spoke in English. I would be helped if I could ask at least one question. I think it's one question. You placed a great deal of emphasis on the integer 2 and on the generation of the integer 2. And your analysis, as I recall, is that if one starts with a unitary mark, then there is the universe of the non-marked, which brings you presumably to the integer 2. Now, what I would like to understand more clearly is what is the analogical correspondence between the mark and the unmarked? Is the marked the system of consciousness and the non-marked the unconscious system? Is the marked the conscious subject, the non-marked the unconscious subject? I would like a clarification at least of this point.
Oui, c'est tout à fait légitime. Oui, c'est absolument légitime.
Je traduis un peu.
Oui, le début, parce qu'à la fin,
monsieur
il a bien compris.
Dit qu'il connaît pas mal des choses dont a parlé le docteur Lacan.
Oui, je sais.
Mais qu'il y a a pattern constantly eluding me. Je suis obligé de dire, il y a une structure qui constamment m'échappe, n'est-ce pas? Et vous, alors il a parlé de l'accent mis sur le nombre 2 et sur la question des marques, là quelque chose qui m'échappe, mais la question principale c'est, est-ce que la marquée c'est l'univers du conscient et le non marqué l'univers du sujet inconscient?
Alors, pour Frege, I have only recalled that it is the class with characteristic numbers, O, which is the foundation of the one. If I have a choice to this for psychoanalytical reference, the two is an important scheme of the eros in Freud. The eros is this power which in life is unifying, and it is the basis on which many, too much psychoanalysts found their conception of the genital maturity as the possibility of this perfect, so-called perfect marriage, for instance, which is a sort of mystical ideal aim which is promoted so imprudently. These two that I have choice, it is only for an audience which is not at first initiated to this question of Frege. The one in relation with the two can, in this first approach, play the same role as the null in relation to the one. No. For the second of your question, naturally, I was obliged to elude many things absolutely technical and especially known by the people that possess perfectly Freud. In all the question of the Verdrängung, which is in English repression, it is absolutely necessary to know that Freud put as the foundation of the possibility of the repression something that in German is called Urverdrängt. It is not in any case the effect of something repressed, but something that is ab initio, here, in a status exactly the same as the repressed, and even is able to call after, to attract, yes, to itself, that which afterwards will become repressed. Naturally, I could not afford here the all set of my formalization. But it is essential to know that a formalism of the metaphor is for me absolutely primary to make understood what is called in Freudian terms condensation. What is produced by the metaphor is exactly that which my pupils Laploche and Leclerc took to give to a larger public some ideas of my theory. Mr. Donato yesterday put on the board this formalism. This formalism in so, in a series of
significant shape, which is composed like that. The metaphor consists in the fact, and I explain that in all the lengths in a special article that's called L'instance de la lettre dans l'inconscient. It is the replacing of a signance S by another signance, which is S'. This substitution is precisely that in the metaphor has the effect to create a new signification. It is exactly by one signance suppressed that it is a possibility of repression and the return of the signal suppressed in the metaphor can be expressed like that, the reappearing of something in the superior line, in the manifest connection with the esprit that was substituted to the first. It is a relation between that and the signification of the symptoms, for instance. An example, an instance of some sort of mistake that I have made an allusion at first was in this formalization that is owed to Laplanche. The transformation of that combination, which is like a fractional term, in this form that was written yesterday like that. It is an error, because this S will be the subject, and it is as much the subject can be inserted in the unconscious that we can conceive the return of something repressed in the shape of this S under the S bar in the conscious. This barred S, this not marked, once marked and afterwards rub out as a marked, is the point where this Urverdreck, this primitive repression can be inserted, because you see easily that all chain of significance can be attached to this primitive S-bar. In this case, it is not the opposition of the non-marked with the marked, which is the opposition of the unconscious with the conscious. Absolutely not. It is marked inside both. But the possibility of the primitive insertion in a peculiar flaw, which is the unconscious subject, is that I try to formalize by this means. Understand? A little.
maybe we have time for the other paper now. And Professor Rosolato is going to read his paper on love. A little intermission, maybe. Un petit entracte de quelques minutes. Oui? Ah, Monsieur Goldman nous pose une question.
Je ne vais pas intervenir dans un exposé de Dr Lacan, qui est un système très complexe que je ne connais pas, et qui en plus nous présente un exposé en anglais, une langue que je ne comprends pas, mais je voudrais lui poser une question, simplement pour comprendre. Je ne me mêle pas de psychanalyse ni de psychologie, je n'y comprends rien, ou très peu, dans la mesure où parfois j'ai lu Freud et j'ai essayé de voir la méthodologie. Mais comme je l'ai dit hier, mon problème est le suivant. Si je travaille avec mes méthodes sur la littérature et sur la culture, ce qui me frappe, c'est que chaque fois que j'ai affaire à des phénomènes collectifs, historiques importants, et chaque fois que j'ai affaire à des œuvres importantes, je n'ai pas absolument besoin de l'inconscient pour l'analyse. J'ai dit que j'ai besoin du non-conscient hier et j'ai fait la distinction. Il y a bien entendu des éléments inconscients et des significations, paraît évident à l'analyse pour des éléments partiels adjuvants. Il est évident que je ne peux pas comprendre le moyen ou l'individu, c'est clair, et là j'ai dit que c'est du domaine de la psychanalyse, et je ne sais pas, je ne veux pas du tout me mêler de ce domaine. Mais il y a deux sortes de phénomènes qui me semblent de toute évidence sociaux et dans lesquels je dois faire intervenir le non-conscient, mais non pas l'inconscient. Ce sont les phénomènes très généraux, sociaux, où il y a beaucoup de gens, beaucoup de temps, beaucoup d'hommes, et beaucoup de pendant une période assez longue où ils interviennent, qui interviennent, ou les grandes œuvres d'art. Alors, je voulais partir là de deux choses. Dr Lacan me dira si j'ai mal compris simplement l'anglais. Je crois qu'à un certain moment, il nous a dit que l'inconscient est langage, et l'inconscient est le langage très simple, le langage anglais, français, que parle tout le monde. C'est exact ?
Il est structuré comme le langage français, anglais ou autre.
Ah, mais qu'il est indépendant de ce langage, alors je m'arrête, je n'ai plus de questions à poser. Parce que, est-ce que, pour vous, l'inconscient est structuré, est lié au mot anglais chez un anglais, français chez un français,
bien
ou non?
Sûr, c'est bon. Chaque sujet, bien sûr.
Il est lié à la langue qu'il parle dans la vie consciente.
Oui, bien sûr, qu'il parle dans la vie consciente et encore, il y a aussi les langues qu'il a parlé, quelquefois il y a des
langues. Oui, mais c'est égal, c'est des langues qu'il a parlé.
Bon. Mais oui.
Bon. Alors, cet élément, je l'ai bien compris. Alors, deuxième chose qui m'a frappé, si j'ai bien compris, dans l'analyse de M. Lacan, et bien entendu, il parlait d'autre chose que de ce que je fais, mais malgré tout, il y avait un certain nombre d'analogies avec des processus que je retrouve dans la conscience, sur le plan conscient, sur le plan où je me passe complètement d'inconscient. Tout d'abord, peut-être que vous lui donner un autre sens, puisque vous étiez sur le plan individuel, mais malgré tout, un monsieur l'a déjà dit, il y a quelque chose que depuis Pascal et depuis Hegel et depuis Marx et depuis Sartre, nous savons sur le plan sans recourir à l'inconscient. L'homme se définit par le fait qu'il n'est pas ce qu'il est, qu'on peut appeler ça un trou, un manque. Il est plus grand que l'homme. L'homme passe l'homme, disait Pascal. L'histoire, la dynamique ne peut se définir, même sur le plan de la conscience, en dehors de l'inconscience, que par ce manque, par ce trou. Bon. Deuxième phénomène que je trouve sur le plan conscient ayant une certaine analogie, si je parle en ce moment de l'épistémologie, par exemple l'épistémologie de Piaget, il me semble évident que la conscience, dans la mesure où elle est liée à l'action, n'a pu se développer qu'en constituant des invariants, c'est-à-dire des objets, et en liant ces invariants à la différence. On n'agit pas sur une multiplicité donnée immédiatement. L'action était étroitement liée à la constitution d'invariants qui permet de mettre un certain ordre dans la différence et qui permet d'agir. Et alors, le seul problème que je voudrais poser est le suivant. Est-ce que cette langue française, supposons qu'il s'agit d'un homme français, je ne vais pas dire un sujet, mais d'un homme français que le psychanalyste rencontre, ou anglais, mais qui parle la langue française. Bon, cet être biologiquement vivant, je ne vais pas non plus employer encore le terme sujet, mais le monsieur qui s'appelle Lucien Goldman, Charles Morazet, etc., se trouve devant un langage.
Soi-disant.
Soi-disant, bon, mais enfin,
cet être qui existe et qui... N'entrons pas dans cette analyse, mais enfin, ce monsieur, mettons, qui, je parle de moi parce que je ne connais pas la date de Morazet, qui n'était pas né dans l'année 1910 et qui n'existait pas dans l'espace à trois dimensions en 1910.
Bon, eh bien...
Comment?
Oui, où voulez-vous en venir?
Ben, je veux en venir exactement ici. Cet être-là ne savait pas le français était là avant lui.
Oui.
L'allemand était l'allemand ou l'anglais était là avant lui.
Oui, d'accord.
Alors,
oui.
Ma question est la suivante. Est-ce que la langue allemande ou la langue française et les légères ou rapides transformations qui s'introduisent dans cette langue? Parce que si la question pour la langue se reporte immédiatement à l'ensemble de la culture, avec d'innombrables médiations, bien entendu. Est-ce lié seulement au problème du fantasme, au problème... J'ajoute un seul mot, que vous avez dit aussi autre chose, qui me semble très important pour, sur le plan de la conscience. Bien entendu, tout sociologue le sait et le saura, il n'y a pas de sujet sans symbole, sans langage et sans objet sur lequel il agit, le sujet n'est pas. Mais alors ma question est la suivante, est-ce que la formation de cette symbolique, les modifications qui s'introduisent aujourd'hui et qui ont de l'importance pour ceux qui naîtront demain et qui auront affaire à cette langue, sont-ils liés au domaine du fantasme, uniquement au domaine du fantasme de l'inconscient et du désir, ou sont-ils liés aussi à quelque chose qui s'appelle le travail, la transformation du monde extérieur, la partie de la vie sociale? Et si vous admettez qu'ils y sont liés aussi, le problème se pose, quelle est la primauté? Où est-ce que se situe une logique? Est-ce que, évidemment, se situe la compréhensibilité? Et pour terminer en deux mots, ma question précise est, j'avais envie de lever la main quand vous avez dit, si que quelqu'un lève la main, s'il trouve que les choses, que l'homme n'est pas en plein, en décomposition, ne se trouve pas, sur une surface, si j'ai bien compris, non organisée, s'il trouve que la notion d'ordre total...
À la dérive,
oui, enfin, je n'ai pas l'image, mais toutes ces images indiquent la même chose. Or, ma réponse, si je ne l'ai pas levée, c'était pour une raison très simple, c'est je crois que l'homme n'est pas simplement à la n'est pas simplement l'aspiration à la totalité, une marche vers la totalité, qu'il est aussi, par certains côtés, vers la dérive, nous sommes toujours devant un mélange, comme je l'ai dit l'autre fois, mais qu'il est très important de séparer les deux, ne serait-ce que pour après comprendre le mélange.
Mais, est-ce que vous croyez que c'est que le travail constitue dans cette dérive une de ces amarres sur lesquelles on peut compter?
Je crois que c'est à travers le travail que l'humanité a résisté à ces dérives, a fait des choses très tout de même positives, étant donné que
l'humanité a résisté, puis on peut dire aussi que
qu'une simple
lecture comme ça, feuilleter un livre d'histoire, vous n'avez pas l'impression, malgré tout, quelque chose de très structuré.
On en parlait
hier soir de l'histoire, puis j'ai levé le doigt pour parler, puis je ne sais pas pourquoi, on ne me donne jamais la parole ici. Mais il est vrai que quand on me la donne, alors là, je la tiens bien. Enfin, quoi, c'est qu'on doit se méfier. Bon, mais tout de même, j'ai eu l'impression que cette fameuse histoire, n'est-ce pas? On ne prévoit jamais si bien les choses qu'après qu'elles se soient passées, ça ne me paraît pas, quant à moi, une muse à laquelle je me fie entièrement. Il y a eu un temps où Clio était bien portante. C'était le temps où écrivait Bossuet. On savait où on allait. Peut-être encore qu'au temps de Marx, enfin Marx lui-même a pu avoir le sentiment qu'il la tenait en main. Mais je ne trouve pas que, après une vie déjà longue, je trouve que moi, l'histoire m'a toujours plutôt apporté des surprises, et des surprises que je n'ai pas encore réussi à m'expliquer. J'ai fait de grands efforts, pourtant. Mais à la vérité, justement, je me les explique par d'autres coordonnées que les vôtres. Et en particulier, je ne pense pas que ici ce soit exactement la référence au travail que j'aurais mis la première en avant. Il y a une chose sur laquelle j'ai beaucoup insisté, enfin, très précisément dans mon dernier séminaire, c'est ceci, c'est que la psychanalyse ne saurait être apparue qu'à une époque, enfin, de monter au sommet de la science. Quand je regarde le spectacle de Baltimore par ma fenêtre, c'est essentiellement les conséquences de la science qui me paraissent encore là, enfin, à peine affleurantes. Mais enfin, on va voir ce qu'on va voir, n'est-ce pas? Et ce qu'on verra n'est pas quelque chose pourquoi je trouverais à l'avance beaucoup d'explications plausibles en dehors de celles que peut donner la psychanalyse, et en particulier sur la fonction de ce sacré objet petit a que j'ai indiqué mais dont je n'ai pas parlé dans son détail, et le fait que la science ne nous lâche en liberté. Ce flot de voix qui finissent par peupler même l'espace entre les étoiles, sans compter ces regards ambulants qui viennent se préciser dans chacune des maisons ici, pas sous la forme des appareils de télévision, ça me paraît quelque chose qui est en effet tout à fait destiné à changer énormément de choses, et pourquoi pas jusqu'à la forme de l'inconscient, n'est-ce pas ? C'est là-dedans, bien sûr, le travail qui joue son rôle, mais aussi bien d'autres choses encore, et en particulier que la science a pu naître à partir d'un initium qui a été un certain statut donné au sujet.
Je termine simplement en vous demandant si c'est exact. Après ce que vous venez de dire, je n'aurais pas osé le dire avant, mais il me semble simplement, et je vous demande si c'est exact, j'aurais dit que c'est un mélange dans lequel le travail passe au second et vous réduisez l'essentiel à une autre chose qui vous semble plus fondamentale, à partir d'où le travail serait dérivé, mais c'est d'après ce que vous venez de dire ici. J'ajoute, pour moi, la science, bien entendu, n'est qu'une partie qui est étroitement liée au travail. Ce qu'on voit dans Baltimore, ce sont des signaux scientifiques, mais aussi des automobiles, des maisons construites et des choses qui ont été faites avec du travail. Finalement, à la base, il est comme élément de votre pensée, il y a cette manque de confiance dans le travail et dans les valeurs positives que peut avoir dans l'histoire la division du travail. Le reste, ça se discute après.
Je conviens que je ne partage pas toutes les fois ensemble.
Professor Goldman said I don't need the unconscious for the analysis of social phenomena. I need the non-conscious, especially in the analysis of general phenomena. There is no doubt that I find many analogies with between some of what you say and conscious processes, which I have found since Pascal, Hegel, and Sartre. We know that man is not what he is. Pascal says that man passes man goes beyond man, and that man should be defined by this lack. But all this, I find, is conscious. If I talk about the epistemology of Piaget, I will find that consciousness is linked to action, and that you have to constitute invariance, which will link, and you have to link this to the difference. You cannot act on immediately given multiplicity. And what about this biologically living person, this being for whom French was there, I will not say the subject, for whom French or German was there beyond, before he was born. What about him? What do you do with him? No, I don't know what it is. Is this being... linked only to the problem of phantasm. Any sociologist knows that there is no subject without language, but is the formation of the symbolism, without which there is no subject, tied only to the domain of phantasm and desire? Or isn't work and social life necessary? Where lies intelligibility? Is it not in this work and social life? When you, would say that man is not simply aspiration to totality, that there is undoubtedly a dérive, something slippery and sliding in man, and that man is a mixture of this aspiration to totality and this other thing, but these things must be separated in order to work and to understand man. Dr. Lacan answers, do you think that work constitutes really an anchor in this slipping of man? When I go through a book of history, I find mostly surprises. The muse of history, Clio, was in good health when Bossuet was writing history, and maybe when Marx was writing history. but I do not think so. That I do not think that is so now. Professor Lacan also talked about the spectacle of Baltimore and how it is impossible to interpret it without this object, this little A object, which is the object of desire. Professor Goldman answers that undoubtedly he finds many such signals, but he also finds houses and automobiles and the traces of the work of man, and that in Professor Lacan there is a lack of confidence in work, in the division of work, and in the possibilities open to man by work. Maybe now we go to the paper of Dr. Oh, we have a small intermission. Professor Moise. One question.
Tout d'abord, je me réjouis beaucoup de ce qu'ayant à ne parler que pendant un temps court de problèmes difficiles, vous les ayez axés sur l'intelligibilité, ou plutôt sur une certaine utilisation de la jeunesse du nombre. Et pour répondre, dans une certaine mesure, à Lucien Goldman, je dirais que lorsque j'étudie l'histoire, c'est sur cette même jeunesse du nombre que je m'appuie comme sur la réalité la plus solide. Je n'en dirai pas plus, je vais seulement vous demander à ce propos, pour savoir si nos postulats sont bien communs ou s'ils sont différents. Il m'a semblé que vous disiez au début de votre exposé que pour vous, la structure de l'inconscient, c'était le langage. Et puis à la fin, vous avez déclaré « l'inconscient est structuré comme le langage ». Alors, si votre deuxième formulation est la bonne, c'est la mienne. Si c'est la première, je constate qu'il y aura une étude à faire.
Vous avez dit que l'inconscient est structuré comme un langage. C'est celle sur laquelle je n'ai jamais varié.
Ah bon, alors c'est la première fois que... J'ai mal compris. Dans ce cas, nous sommes d'accord.
We'll have a small intermission before.
Thank you very much.